Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois aujourd'hui Pascal Clark. Bonjour Pascal.
Bonjour Philippe.
Journaliste, animatrice, romancière. Moi je vous appelle The Voice. Et vous publiez Mute chez Flammarion. C'est l'histoire d'une double aphonie. La vôtre et celle de votre mère que vous racontez. D'ailleurs, vous écrivez à votre mère dans ce livre.
Oui, je m'adresse à elle parce que ce livre a aussi pour objet de lui rendre la parole. Donc, et c'est vrai que quand elle a perdu la sienne, c'est moi qui parlais. On se parlait autrement et je continue le dialogue parce que bon, j'accepte pas en fait que ma maman soit partie. Donc je continue à lui parler comme si elle était encore là.
Qu'est-ce que vous lui auriez posé comme question si vous l'aviez interviewée ?
Oh là ! En fait, c'est compliqué d'interviewer sa maman, mais c'est vrai que quand vos parents disparaissent, il reste toujours des questions en cours que vous n'avez pas eu le temps de poser. Mais là, on est dans le très très personnel. Hein.
Mais vous reconstituez son histoire. Quelles sont les zones de sa vie que vous auriez aimé explorer ?
Évidemment, juillet 42, la rafle du Veldiv, elle a 8 ans et elle échappe à cette rafle-là. Donc, finalement, on n'en a pas tant parlé que ça. Et si c'était à refaire, ce qui ne se refera pas, évidemment, j'aurais posé plus de questions, mais j'ai l'impression que ce n'était jamais le moment non plus. Donc, voilà. Notamment un thème que j'aurais bien aimé, après coup, avoir su, avoir pu explorer.
Pourquoi ? Par pudeur ou par manque de temps ou par...
Non, je pense que... Moi, j'ai entendu l'histoire familiale, évidemment, on m'a raconté, mais c'est jamais le moment. Imaginez-vous que ceux qui s'en sont sortis des camps ont mis plusieurs décennies à raconter, d'une part parce que c'était quasiment indicible, et en plus, personne ne voulait entendre ça. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, et vous ne pouvez pas, comme ça, de manière explicite, plomber toute votre famille en ne parlant que de ça, vous voyez. Et puis, quand le moment s'est fait sentir, c'était déjà trop tard. Et puis, sur la fin, vous ne vous posez pas les questions à la fin, vous ne voulez pas dire à votre maman, c'est bon, là, t'en as plus pour longtemps, allez hop. Je te pose les questions, ça se passe.
Dis-moi, raconte-moi.
Ouais, voilà. Et c'est un seul exemple. Maintenant, j'aurai plein de questions. C'est comme ça, la vie. Qu'est-ce que vous voulez ?
Vous l'appeliez comment, votre mère ?
Je l'appelais beaucoup Frania, ce qui est son vrai prénom. Mais elle était née Frania, à Paris, de parents polonais. Mais son prénom avait été francisé pendant la guerre, en Françoise. Et quand j'ai connu l'histoire, j'étais adolescente, je me suis dit, moi je vais l'appeler Frania, j'ai réhabilité un peu son vrai prénom, parce que c'est important l'identité, et puis Françoise, ça me plaisait pas tellement, Frania je trouve ça tellement beau, donc j'ai commencé à l'appeler Frania, et du coup je l'appelais beaucoup Frania, et elle aussi elle finissait par, elle avait repris son prénom, et elle signait Frania. Enfin, pas les papiers officiels, c'était pas possible, ils n'avaient pas été changés, mais en tout cas, dans la vie quotidienne.
Ouais. Pascal Clark, c'est votre vrai nom et votre vrai prénom. Ouais. Est-ce que vous avez été tenté, à un moment donné, de prendre un pseudo, comme ça se faisait ?
Pourquoi vous le trouvez moche ?
La question... Non, moi, j'adore Pascal Clark. Mais est-ce qu'à un moment donné, puisque c'était la mode, quand vous êtes arrivé sur Europe 1, vous avez une copine...
Ah, mais non, c'était pas une mode. Oui, ma copine Dani. Je rigole, mais c'est pas drôle.
Mais elles avaient pas de nom, elles avaient que des prénoms.
On parle de
Speakerine.
Speakerine. Sur RTL, on dit Speakerine et sur Europe, on dit meneuse de jeu.
Ouais.
En fait, ce sont ces créatures féminines qui sont chargées à la radio de donner l'heure, de faire les pubs dans leur voix et de relancer le présentateur vedette. Et c'est vrai qu'à l'époque où j'étais à Europe 1 dans les années 90, ça m'avait frappé de leur non-existence absolue. Et donc, il n'y avait généralement qu'un prénom, parce que le nom entier serait été abusé. Et ma copine Dani, quand elle arrive sur l'antenne d'Europe 1, à ce moment-là, il y a un scandale en cours. C'est la chanteuse Dani qui a été chopée avec de la drogue. Et donc, le dirigeant d'Europe 1 dit à ma copine Dany, bah, hors de question que tu t'appelles Dany à l'antenne, donc tu vas changer de prénom, bah, tiens, on va t'appeler Véronique.
Voilà, c'est une voix d'Europe 1. D'ailleurs, Anissa, qu'on entend sur Europe 1, qui s'est appelée Anissa au départ, maintenant a gagné son nom, c'est Anissa Haddadi. Quand on parle d'elle maintenant, on donne son prénom et son nom. Comme quoi, finalement, les choses changent un petit peu.
Oui, mais vous avez vu le temps qu'il faut pour gagner juste simplement son nom, alors vous imaginez le reste. Faut pas être pressé quand même.
Très tôt, vous avez su que vous vouliez faire journaliste ?
Très tôt, oui. Très très tôt, vers l'âge de 13 ans. Vous allez me demander pourquoi derrière, mais je vous préviens tout de suite, je n'en sais rien. Vous savez...
Mais il y a la vocation. Parce que, est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être une voix à la radio qui peut-être vous a donné envie, ou une journaliste qui vous a envie ?
Rien de la sorte.
Non.
C'est décevant, je ne vais pas vous dérouler un mythe, une histoire mythique qui n'a pas existé. Non, non, c'est deux passions parallèles en fait, qui se sont déclarées. J'ai été positive au journalisme et positive à la radio, et ça a fini par se croiser.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce métier, en fait, quand on réalise. Il n'y a pas beaucoup de femmes leaders. Comment vous l'expliquez ?
Dans ce métier, vous parlez de quel métier exactement ?
La radio.
La radio, bon, il y en a de plus en plus. Ça évolue quand même. À l'époque, toujours les années 90, sur Europe 1, les femmes, elles étaient réduites. C'est un peu les utilités, quoi. Il y aurait eu un gouvernement... Elle n'aurait pas eu les ministères régaliens, vous voyez. C'était services, éducation, santé, culture, un peu les sujets estimés moindres, qui ne le sont pas forcément, mais voilà, il y avait une volonté de ne pas les mettre en avant. Et ça évolue quand même, il y a beaucoup de femmes sur le terrain, notamment, ça fait plaisir, des femmes grands reporters. C'est vrai que... Si on prend
la présentation de la
matinale,
tranche... La matinale, voilà, par exemple.
Ouais, il y a eu très très peu de femmes encore.
Il y a eu des tests, il y a eu des essais, mais finalement pas transformés.
Qu'est-ce que vous appelez un essai transformé ?
C'est-à-dire quelqu'un qui reste 10 ans à la tête d'une matinale, ouais, non, comme ça peut être le cas d'un homme.
Ça, on n'a pas eu. Il y a eu Fabienne Sintès sur France Info, qui était très bien. Sinon, non, il n'y en a pas eu, effectivement.
Vous avez eu la matinale ?
Oui, 4 mois. 4 mois sur Europe 1.
Mais c'était une première.
C'était une
vraie révolution. C'est-à-dire qu'on allait filer la matinale à quelqu'un qui venait de la nuit, en plus.
Oui, c'est pas tant de venir de la nuit, mais c'était surtout la donner à quelqu'un d'inconnu. La donner à une femme, effectivement. Je sais pas ce qu'elle aura pris. Un petit moment d'absence. Voilà. Et ça n'a duré que 4 mois parce que assez tôt dans ma carrière professionnelle, j'ai eu des problèmes d'autorité, avec l'autorité en fait, avec la hiérarchie. Et là, on m'avait mis un type au dernier moment dans les pattes et on était d'accord sur rien. Et quand il s'est agi d'en sacrifier un, c'est tombé sur moi, voilà.
Mmh. C'était qui ce type ?
Oh, peu importe. Il est mort en plus.
C'est parce que vous en nommez certains et pas tous, en fait.
Ben ouais.
Ça, c'est bizarre.
Mais il y a une logique. Enfin, il me semble. Même s'il y a des exceptions, je nomme plutôt les gens que j'aime bien. Mmh. Voilà.
Je vous ai invité parce que je vous ai entendu un samedi matin à la radio chez Patrick Cohen et vous m'avez fait pleurer. J'ai une petite larme. Et ce qui m'a fait pleurer, c'est quand vous avez commencé à parler de la relation qui unit les gens qui parlent à la radio avec ceux qui les écoutent. Parce que finalement... les gens vous connaissent votre voix, mais vous ne les connaissez pas, finalement.
Non, ouais,
et c'est particulier, ce lien qu'on a avec les gens qui nous écoutent.
Oui, bah, vous devez ressentir ça. Je parle du direct, là.
Bah, mais c'est vrai.
Bah, non, parce
pourquoi
que...
Bah, parce ouais, c'est que, intéressant, ça.
Bah, parce que c'est partager le même moment, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que quand vous parlez en direct à la radio, il y a des gens qui écoutent, vous n'en savez rien. Impossible de les imaginer. Eux le savent. Eux, forcément, savent qu'ils vous écoutent. Donc, c'est un rapport assez spécial. Et quand ces gens-là vous rappellent des moments, c'est assez incroyable.
Qui sont très précis pour eux, d'ailleurs.
Hein. Très précis, parce que c'est ça, la radio. La radio, c'est entre dans l'intimité. Donc, c'est sentimental, la radio. Ça accompagne les moments de la vie. C'est pour ça qu'il y a une espèce de lien qui se forme, mais un lien qui est invisible, mais qui existe quand même. Donc c'est très très spécial, je trouve.
Et les gens sont attachés à votre voix, parce que vous les accompagnez Si vous avez une tranche régulière, en plus, vous êtes avec eux tous les matins.
C'est ça, ouais. La force du quotidien, jour après jour, c'est compliqué, une émission quotidienne ou un rendez-vous quotidien à la radio, parce que par définition, ça revient vite tous les jours. Mais il y a justement la force du quotidien. Et même quand on rate un peu, on se dit, demain arrive vite, vous voyez.
On ne sait jamais où volent les voix et où elles atterrissent. On ne réalise jamais la multitude d'oreilles qui nous écoutent, mais c'est vrai que finalement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à palper. Souvent.
Ah oui, et puis parfois, vous avez des retours, pour le coup, bien, bien longtemps après, qui sont assez émouvants. J'ai deux exemples, si j'ai le temps. Par exemple, je faisais le soir sur Europe 1 et il y avait la guerre en Bosnie. Il y a un reporter de la rédaction qui m'a dit j'ai rencontré un vieux bosniaque qui m'a demandé de tes nouvelles. Il écoutait le soir la radio en grandes ondes alors qu'il fallait se procurer des piles quand même, c'était pas rien. Et sinon, souvenir sur l'antenne de France Inter, un jour je recevais Gérard Manset et on a écouté la chanson qu'il avait écrite pour Alain Bashung qui s'appelle « Comme un Lego ». C'est une chanson extraordinaire et qui a comme particularité de durer, plus de 10 minutes, 12 minutes peut-être. Et on l'a diffusée en entier. Et on a eu un mail d'un agriculteur qui nous a écrit en disant « Je vous écoutais sur mon tracteur, vous m'avez fait pleurer ». Je trouve ça extraordinaire, vraiment.
Bashung, c'est une émission, parce que vous avez animé pendant des années, une émission qui aujourd'hui est culte, qui s'appelle En aparté. C'est une des émissions que vous préférez, celle de Bashung ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ?
Elle a de particulier que c'est Bashung, quand même. Et qu'on avait fait une spéciale, donc elle durait longtemps, elle durait plus d'une heure, une heure et demie, je crois. Et moi, je ne l'ai pas revu récemment, mais c'est un artiste que j'aime énormément. Et l'être humain n'était pas en reste. Parce que parfois, vous êtes déçu par les gens que vous rencontrez. Malheureusement, mieux vaudrait ne pas les croiser.
Les gens que vous aimez, que vous rencontrez.
Oui, dont vous aimez l'œuvre, ou quel que soit leur domaine d'expression. Parfois, j'aurais pas dû le voir, mais là, Bashung, humainement, il était tellement, tellement touchant. Donc oui, j'ai ce souvenir de là, mais après, il y en a d'autres. C'est une mosaïque dans ma tête.
Ouais, vous racontez une époque qui n'existe plus, l'époque où on pouvait presque encore fumer à la télévision avec Bashung.
Alors on pouvait
pas fumer à l'écran,
non,
mais.
Alors on pouvait plus déjà, mais oui, il avait fallu trouver une petite astuce. Parce que justement, la cigarette avait commencé à être bannie des plateaux. Et comme je vous l'ai dit, on avait une heure et demie à tourner. Donc on n'allait pas faire comme si le problème n'allait pas se poser. Déjà qu'il était abstinent d'alcool. Donc on a trouvé, oui, une petite astuce. On lui a mis un cendrier sur pied à l'extérieur du studio. Et par moment, il est sorti fumé sans être filmé. Donc la loi était respectée, mais on continuait à parler pendant ce temps-là, et puis il y avait des plans sur cet appartement, voilà. Il a fallu avoir quelques idées parfois.
Bon, terminé le silence radio, Pascal Clark est notre invité jusqu'à 13h. Votre livre s'appelle Mute, et on en parle, c'est chez Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Pascal Clark, qui est notre invité aujourd'hui, qui publie Mute chez Flammarion.
Mute ou Mute, faut
mute,
choisir votre camp.
Mute, je sais
non,
pas.
Mais c'est comme vous voulez. Mais...
Mute.
Mute.
Et vous, c'est quel votre camp ?
Moi, je l'ai pensé Mute au début, mais je pense que Mute, surtout en temps de virus, ça passe.
Ouais. Il y a un bouton Mute, d'ailleurs.
Bien sûr, il y a des boutons Mute partout. Sur toute télécommande, un bouton Mute.
Pascal Clark, est-ce que vous savez pourquoi le son a perdu sa bataille avec... contre l'image ?
Là, ça, c'est une question compliquée. D'abord, parce que l'image emporte tout actuellement, d'une part, et que le son tout seul se véhicule mal, nous dit-on. Et je pense que c'est surtout les GAFA, et puis vous rajoutez le nombre de lettres que vous voulez, derrière, quoi, c'est-à-dire en ligne. Internet ne supporte pas le son tout seul, il faut de l'image. Donc, comme les radios aiment bien que leur programme soit repris un peu partout, c'est pour ça qu'ils filment. Mmh. Ce qui, pour moi, est une aberration.
Et on n'écoute pas de la même façon quand on a l'image.
Bah, vous savez bien que non.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Ouais.
Mais on n'est pas beaucoup à penser ça.
Mais si, tout le monde le pense, en fait.
Non.
Parce que c'est pas discutable que le son tout seul développe l'imagination beaucoup plus que l'image. C'est quasiment un fait. Simplement, ça ne va pas dans les intérêts de l'époque, c'est tout.
Mmh. Moi, je suis pas certain. La nouvelle génération veut être filmée. Parce que pour elle, c'est plus important d'être vu que d'être entendu.
D'accord. Mais là, on ne parle plus de radio, alors. On parle de télé.
Ou de radio filmée.
Ou d'écran, en tout cas.
Mmh. Vous, c'est quelque chose que...
Moi, j'ai rien contre l'image. Hein. Enfin, je ne suis pas une adversaire de l'image. Mais qu'elle laisse un peu de place au son. Parce que si vous avez les deux, c'est l'image qui l'emporte.
Toujours.
Forcément, toujours.
Ouais. Votre mère vous écoutait. Ça vous a jamais gêné d'être entendu par votre mère, de faire de la radio, en sachant que votre mère vous écoutait ?
Je pensais pas en permanence qu'elle m'écoutait, vous voyez. Mais je sais qu'elle écoutait tout le temps, oui. Après, pourquoi ça m'aurait gêné ? C'était pas une censure, c'était un soutien. Non, qu'est-ce qu'il y aurait eu de gênant ?
Ça peut parfois être compliqué de faire son métier devant les gens de sa famille, des gens qui vous connaissent bien.
Bah, c'est bizarre, votre question. Vous pensez que c'est plus facile de le faire devant des inconnus ? Ouais, peut-être. Peut-être que... Non, mais j'y pensais pas en permanence. Je faisais pas de la radio pour elle. Mais il se trouve qu'elle écoutait tout le temps, c'est normal. Elle avait de mes nouvelles. Et comme la voix ne peut pas mentir, quand j'avais un petit problème, elle le savait immédiatement. Hein. Eh ouais.
Et qu'est-ce qu'elle vous disait ?
Allô ? Ça va pas là ? Je t'ai pas trouvé en forme ce matin ? Ou t'as un souci ? Généralement, elle voyait juste.
Un des exercices où vous excellez, c'est la revue de presse, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que ça a un sens de faire des revues de presse ?
Non. Non, la revue de presse telle qu'on l'a conçue, en gros, avant le numérique, n'a plus du tout de raison d'être. Parce que... Vous vous rendez compte, moi, quand je lisais les journaux vers 4 heures du matin, j'étais une des premières à les lire. Enfin, il n'était pas, l'histoire n'était pas dévoilée. Donc, maintenant, ça n'existe plus. Ou alors, il faudrait la faire totalement différemment. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, puisque tout est en ligne. Pour les abonnés, ou tout est en ligne. Donc, et je pense qu'il faudrait faire une... puisqu'on parle de la radio, là... Il faudrait faire une revue de son, en réalité. D'abord, ça aurait pour mérite de réhabiliter le son. Et l'actualité peut très bien se décrire en son. Ce serait beau.
Mmh.
Ce serait du travail, hein, mais bon.
La radio a aussi perdu cette bataille du média qui était le premier informé. Parce que ça a été longtemps le média qui était
l'instantanéité,
le plus instantané. Ouais,
bah maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est sûr que... que la radio a perdu, l'instantanéité et la légèreté. C'est surtout la légèreté aussi, c'est-à-dire c'est très simple pour donner une info. On est sur place et puis on prend un téléphone et on témoigne. Vous voyez, la télé, c'est toujours... parfois, faut des fuseaux, des circuits, des trucs. La radio, c'est léger. Donc, effectivement, cette instantanéité-là a été un petit peu concédée aux réseaux sociaux. Mais il reste justement raison de plus pour cultiver ce qu'il y a de propre à la radio, c'est-à-dire quand même l'intimité et la puissance de l'imagination, il me semble.
Qu'est-ce que vous avez beaucoup aimé faire à la radio ?
Presque tout, c'est-à-dire des émissions d'infos ou de moins faux, la revue de presse, tout ça... Et donc, ce que j'ai peut-être le moins aimé faire, ce sont les interviews politiques à l'époque, j'avais 6-7 minutes, même 6 parfois. Et avant 8 heures du matin, vous voyez.
Ce qui est, pour tout le monde, c'est quand même l'audience est à son maximum à ce moment-là.
Oui, sûrement, oui.
Il y a beaucoup d'auditeurs.
Oui, oui, il y a beaucoup d'auditeurs. Ouais. Bah, le matin, il y a beaucoup d'auditeurs. Hein. Ouais, moi, je crois que j'ai même rien apporté là-dedans.
Hmm.
Et je crois pas tellement à l'interview politique.
Pourquoi ?
Je trouve que ça présente pas beaucoup d'intérêt, en fait. Puisque c'est un combat entre questionnement et communication. Donc, vous ferez pas dire à un politique ou à une politique ce qu'il a pas envie de dire, vous voyez ?
Même si vous êtes une très bonne intervieweuse ?
Ils sont trop rompus à ne jamais vous répondre, à ne pas baisser la voix pour ne pas être interrompu. Enfin, et tout ça, ça prend du temps. Donc en 6 minutes, je trouve que c'est vraiment injouable.
Mmh.
Moi, je considère que c'est injouable.
Est-ce que l'auditeur le sait, ça ? Ou il croit que finalement, dans une interview, il va forcément se dire des choses ?
Bah,
avec un politique.
Je pense que s'il écoute, il comprend quand même, au bout d'un moment. Non, mais quand on a langue de bois, matin après matin, ou alors fausse sincérité, c'est encore pire. Vous voyez. Moi, je ne crois pas du tout à l'interview politique.
Hmm.
Donc, mais je dis peut-être ça parce que j'ai échoué. Et puis, moi, comme je ne supporte pas qu'on me balade, ça a pété. Et puis j'ai déjà vu des hommes politiques le matin, la matinale de France Inter. Je leur posais des questions et ils répondaient en regardant les
conseillers
hommes,
autour.
Les hommes, non, les journalistes hommes autour de la table. Ça, je l'ai vécu. Ouais, je vous assure. Alors, soit parce que je suis une femme, soit parce que je n'étais pas du sérail, donc difficile à, voyez. Parce que c'est quand même des gens qui se voient et qui ont des contacts, qui sont dans le même monde.
Mmh.
Journalistes politiques et politiques, on le sait bien.
Et pas gens de radio ?
Pas gens de radio, c'est-à-dire...
En général,
moi j'ai jamais pris un café avec un homme politique.
Mais quand on lit votre livre, on comprend que vous n'étiez... Enfin, que vous étiez pas dans le milieu, en fait.
Pas du tout. J'étais pas dans le milieu, je viens pas de ce milieu, je connaissais personne qui était journaliste, donc...
Mais ça peut paraître bizarre quand on fait... Voilà, vous avez 30 ans de radio, dans les plus belles radios de France, avec des tranches prestigieuses, vous n'avez jamais été dans ce qu'on appelle le milieu.
Non, alors j'ai eu des copains journalistes, hein, c'est pas non plus la honte, quoi. Mais non, je connais pas de dirigeants, déjà j'ai pas beaucoup de réseau, je suis pas très réseau, vous voyez, donc je suis une solitaire... donc je pense que c'est à la fois ma force et ma faiblesse.
Mmh.
Voilà. Mais en tout cas, pour revenir aux politiques, j'ai jamais, jamais, jamais eu de contact avec eux, vraiment.
Bon, vous prenez l'exemple dans le livre de votre interview avec Marine Le Pen, par exemple.
Mmh.
Pourquoi vous avez accepté de le faire, finalement ?
Bah parce que...
On vous l'avait imposé
Non, c'est pas ça. On est dans la campagne de 2012, la présidentielle de 2012, et France Inter reçoit tous les candidats. Patrick Cohen, à 8h20, parle de leur programme. Et moi, je suis chargée plutôt donc, de faire plus une interview de personnalité, disons. Il y a tout le monde. Je vais pas refuser de la faire. J'ai beaucoup contourné l'obstacle. J'ai tenu sans interviewer Jean-Marie Le Pen pendant très longtemps. Et là, c'était plus possible. Donc, j'y suis allée, mais pas de gaieté de cœur. Parce que contrairement à ce que croient certains qui se disent « Moi, je vais y arriver. » Longtemps, il y a eu ça. Moi, je sais interviewer Jean-Marie Le Pen. Et puis ensuite, moi, je sais faire face à...
Je pourrais la mettre face à ces contradictions.
Et en fait, j'ai pas beaucoup d'exemples d'interview réussies face au Front National. Donc... j'y suis allée. C'était pas terrible parce que très vite...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça dérape assez vite, quoi, c'est ça, ouais. J'ai pas la patience. Alors, je m'étais dit, je vais quand même commencer je me souviens très bien, en lui faisant des compliments pour un peu faire le rebrousse. Alors, évidemment, elle était étonnée, et puis après, la deuxième lame.
C'était l'effet qui se coule.
Effet qui se coule, mais ça a pas très bien, ça a pas donné de résultat. Voilà. Bah alors, ni plus ni moins que les autres, hein, je trouve. Mais en tout cas, j'ai pas réussi. Et moi, après, je me suis dit, je préfère laisser ma place. J'ai pas du tout de fierté à me dire, oui, moi, je vais y aller. Non. Faut être aussi conscient de ses capacités.
L'interview politique, c'est pour les pros.
Pour les pros, moi je suis pro hein, dans mon genre, mais pas là quoi. J'ai pas envie. Non, je trouve que ça n'apporte rien, voilà. Mmh.
Vous avez connu l'époque Jean-Luc Delarue, l'époque où un non-journaliste arrivait à la tête d'une matinale. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur les chaînes d'information, bah, c'est Hanouna qui fait le débat aujourd'hui, qui reçoit les hommes politiques, qui fait le débat. C'est quelque chose qui s'est généralisé.
Bah, disons que le curseur de ce métier c'est vraiment énormément déplacé. Effectivement, Jean-Luc Delarue, il y avait eu scandale à la rédaction d'Europe 1 hein, quand on a décidé de confier la matinale à un type... Moi, je pense qu'il était journaliste quand même dans ses activités, parce qu'il faisait des interviews régulièrement, mais en tout cas...
Il avait la carte de presse ?
Je sais pas, je pense qu'il a dû l'avoir, j'espère pour lui, parce que ses activités l'indiquaient, mais... La rédaction d'Europe 1 était vraiment pas contente, et puis il a conquis les cœurs et les cerveaux avec son talent. Parce qu'il était... Il a modernisé cette tranche, il était impeccable... et donc du coup il a fait taire les médisances grâce à son travail et c'était assez fort ouais.
Mais aujourd'hui c'est
aujourd'hui,
la question
bah ouais,
non, se poserait-elle
aujourd'hui tout se mélange, voyez. Je sais pas quoi vous dire aujourd'hui tout le monde fait tout quoi. Il n'y a plus du tout de parce qu'on a beau dire journaliste c'est quand même un médiateur, c'est quelqu'un qui contextualise, c'est quelqu'un qui a appris son métier, qui a une expérience, qui est capable de traiter l'information, vous voyez. Personne va dire, bah tiens, j'ai envie d'opérer quelqu'un aujourd'hui, je vais peut-être tenter ma chance. Non, heureusement. Et je trouve qu'on a un peu laissé dériver ce métier, quoi, qui demande, ça s'apprend quand même d'être journaliste. Non pas que je veuille absolument que ce métier soit exercé par des gens qui sortent des écoles, parce que là, ce serait pas sérieux et monotone, mais au moins apprendre son métier et pas faire n'importe quoi. Il n'y a plus du tout de mise en contexte, ça, je trouve ça gênant. Et puis, le journaliste est un médiateur, il choisit l'information, il y a une hiérarchie qui est la sienne, mais... Qui l'assume. Et là, il n'y a plus du tout de hiérarchie, il n'y a plus du tout de nuance, tout le monde fait tout, donc tout le monde fait n'importe quoi. Enfin, c'est compliqué en ce moment. Mais il reste des très très bons journalistes sur le terrain, des très bonnes plumes en presse écrite, des très bons intervieweurs, il y en a encore. Mais quand même, on voit beaucoup de n'importe quoi.
Pascal Clark est avec nous. Mute, c'est le titre de votre roman qui paraît. C'est pas un roman, c'est un récit d'ailleurs, qui paraît chez Flammarion. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Benjamin Biolay, la chanson.
Merci du cadeau.
S'appelle Négatif. Pourquoi cette chanson, finalement, c'est quelque chose qui vous a accompagné le matin ? Ça vous boostait pour démarrer vos journées ?
Ah, booster, c'est pas vraiment le mot. Mais donc, quand je faisais la revue de presse, donc je me levais très tôt et je parcourais la ville d'est en ouest. Donc j'avais à peu près un petit quart d'heure de trajet à cette heure-là. Ça roule bien, il n'y a rien à dire.
Il est quelle heure à ce moment-là ?
Il est 4h moins le quart.
Oui, ça roule.
Ça roule indiscutablement. Et donc, évidemment, il y avait encore des... Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est un petit objet rond qui s'appelle CD.
Indestructible.
Ça vous dit quelque chose ?
Quelque chose dont on nous disait
à l'époque,
que ça
on
ne
nous
pouvait pas
que...
se détruire et rayer.
Ouais,
voyez.
Ouais. Que ça allait durer toute une vie. Bon, alors, on a dit des choses. Hein. Et donc, dans les voitures, il y avait encore des lecteurs CD. Puisqu'il y avait encore des CD. Et donc, je choisissais. J'avais, deux, trois morceaux à écouter sur le trajet. Et j'ai beaucoup écouté Benjamin Biolay, Négatif. Voilà. Donc, vous savez ce que c'est, la force des chansons. C'est un peu comme la radio. Ça accompagne et ça marque. Ça marque de l'empreinte.
Ça replonge au moment.
Ouais.
Madeleine de Proust.
Carrément.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire à la radio aujourd'hui, maintenant ? un exercice qui vous ferait plaisir, là. Si je suis directeur des programmes d'une radio, qu'est-ce que je vous donne comme tranche?
Peu importe la tranche, mais du direct.
Mmh.
Voilà.
T'as pas peur du direct?
Bah si, justement. C'est bien d'avoir peur, c'est être vivant.
Oui. Les dernières années de radio que vous avez fait moins de direct. Qu'est-ce que ça change au métier de ne pas être en direct?
Ça change le lien dont je vous parlais, c'est-à-dire le partage du moment. En fait, bon, à l'époque, c'était un peu fait comme une punition, parce que le direct, faut le mériter, vous voyez. Et donc, j'ai fait une saison enregistrée, mais du coup, vous développez d'autres axes, puisque vous n'êtes pas en direct, donc vous produisez davantage. On faisait une émission qui était peut-être plus belle, qu'on avait le temps de peaufiner. Voilà. Donc c'était, je l'ai fait avec cœur, c'était agréable, mais c'était pas du direct, c'était autre chose.
Vous êtes un peu un artisan dans votre métier. Alors je sais pas comment on met au féminin, mais vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin de toucher. Vous racontez, mais alors c'est vrai que tout le monde ne sait pas comment fonctionnent les émissions. Vous avez toujours été, vous avez pas utilisé ce qu'on appelle les fichistes.
Les
gens qui vous font des fiches, qui vous écrivent vos lancements, qui vous écrivent vos questions.
Oui, alors c'est pareil, moi je veux pas donner de leçons, mais il me semble que à la radio, il y a un élément dont on parle peu, c'est le plaisir de l'écriture, le plaisir des mots. Et se priver de ça, je trouve ça hallucinant. Alors en fait, les gens qui font des interviews, enfin les gens qui n'écrivent rien, on en connaît. Hein. Moi, je vais pas citer de nom, mais je connais des gens qui présentent des matinales en ce moment et qui n'écrivent rien.
Ça s'entend quand vous avez l'oreille.
Ah, ça s'entend. Moi, je l'entends évidemment, mais je pense que les gens l'entendent pas trop.
Non, mais et ça puis, s'entend.
Oui, oui, nous on sait parce qu'on connaît l'arrière-cuisine. Donc je trouve ça assez dingue de se priver de ce plaisir-là, déjà. Les interviews, pareil, il y a les fameux fichistes. Donc c'est un métier particulier. On gagne bien sa vie, d'ailleurs. Hein. Enfin, bien. Fichistes, ce sont les batteries d'assistants chargées de faire le boulot de l'autre, en fait. C'est-à-dire de lire les livres, d'aller au cinéma et de faire des fiches. Pour faire en sorte que le présentateur vedette, qui généralement est très très occupé dans sa journée, puisse faire une interview en donnant l'illusion d'avoir lu, d'avoir vu, etc. Et il y a même des chefs
fichistes. Non.
Des chefs fichistes.
Mais ils contrôlent les fiches ou ils font les fiches du très grand chef?
C'est eux qui dirigent les troupes de fichistes. Et je pense qu'un chef fichiste gagne très bien sa vie pour le coup, parce qu'il y a un peu de hiérarchie, donc voilà, non, c'est un métier. Alors, bon.
On en
rigole, mais c'est un peu un des travers aussi de l'époque, c'est-à-dire trop ou trop peu. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas du tout de boulot, et il y a des gens qui croulent sous le boulot, et à qui on continue de proposer du boulot parce qu'on les voit, parce qu'ils ont cette visibilité. Vous admettrez que c'est mal fait. Donc, forcément, leurs journées sont tellement chargées. Vous n'avez qu'à faire la liste de leurs activités, et bah, travailler ne rentre pas dans leur agenda, en fait, c'est ça.
Mmh. Ils présentent, en fait, ils animent.
Ils présentent. Alors,
ça, c'est leur métier, ils le font souvent avec beaucoup de talent.
Hein. Ils ont ce talent-là, ils ont ce charisme-là, souvent, mais du coup, oui, c'est une autre façon de travailler. Et moi, c'est dommage, je sais pas le faire, travailler comme ça. Ça doit rendre la vie plus simple, hein, franchement. Mais je peux pas parler d'un livre si je l'ai pas lu de A à Z, parce qu'il me semble que c'est son propre regard qui demande à être développé, son propre ressenti. Mais du coup, oui, ça prend un peu de temps.
Tout le monde parle de votre voix, de votre signature radiophonique, mais les gens voient pas forcément le travail qu'il y a derrière, le travail d'écriture, parce qu'ils ne s'entendent pas.
Heureusement, vous savez, quand on sent le travail, c'est mauvais signe, hein, généralement.
Ça se voit pas, ça s'entend pas.
Ben non, faut pas.
Ouais. Est-ce qu'on vous a fait payer l'affaire Mehdi Mekla, finalement, à vous?
Ça, je peux pas dire.
Vous êtes discrète maintenant là-dessus?
Bah, je suis pas discrète. Vous voulez que j'en parle
Non, je sais pas, mais est-ce que vous pensez que dans votre disgrâce, Pascal Clark, l'affaire Mehdi Mekla a un rôle? Et le fait que vous l'ayez soutenue?
Je peux pas le dire. C'est comme quand on me demande est-ce que ça vous est arrivé parce que vous êtes une femme. C'est possible, mais je peux pas le prouver. Tout ce que je sais, c'est que ça n'a pas été beau à voir, ce qui s'est passé. Voilà. Et que, bon, ce gamin, il a déconné, on est bien d'accord. Mais moi, je l'ai jugé, j'avais deux façons de faire. Soit, déjà, ces tweets, tout le monde les connaissait, il faut rappeler ça. Hein,
parce que, en interne, enfin...
Non, pas en interne. Twitter, par définition, c'est public. À chaque fois que ceux que j'appelais les kids, c'est-à-dire Mehdi et Badrou, étaient invités quelque part, et ils ont beaucoup produit, ils ont fait des documentaires, ils ont écrit des livres, donc ils étaient invités un peu partout. À chaque fois, il y avait ce qu'en presse écrite, on appelle un encadré. À la télé, ça peut se transformer en petit passage obligé où on rappelait, où on demandait à Mehdi c'est quoi ces tweets, c'est quoi ce personnage. Donc c'était vraiment sur la table. Après, il y a des gens qui ont décidé de le faire tomber parce que ça s'est passé comme ça. Et ils ont, évidemment, ils ont compilé 6 tweets dégueulasses, répugnants, hein, comptez pas sur moi pour défendre ces tweets. Mais au milieu de 50 000 tweets qui se moquaient de tout, c'était un personnage qui était à la sulfateuse pour juger des limites sur Twitter. Très mauvais goût, enfin il était à la fois tout ce qu'on sait, antisémite, homophobe, sexiste, misogyne, bon. Est-ce que je prenais en compte ce personnage virtuel ou est-ce que je prenais en compte ce gamin que j'ai vu depuis l'âge de 16 ans, lui avait 16 ans, et que j'ai côtoyé quasi quotidiennement pendant des années, et que chez qui j'ai jamais décelé un gramme de tout ça. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais j'en ai entendu des choses, on m'a dit, mais t'as été naïf, t'avais un djihadiste à côté de toi et tu l'as pas vu. Bon, mais dis, mec, là, il est même pas musulman, déjà. Vous voyez, il est pas musulman. Donc, moi, j'ai vu tous ses amis le laisser tomber du jour au lendemain et lui dire, tu vas me défendre parce que moi, je veux pas tomber à côté de toi. Des gens qui l'avaient aidé à accéder...
C'est peut-être pas des amis.
Bah oui, moi, on est d'accord, mais ouais, je vous assure qu'il n'est pas resté grand monde. Et puis surtout, oui, il a fait des conneries, il a joué, il a perdu, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On le bannit à vie, comment ça se passe? Lui, il aurait bien aimé avoir une petite peine, je ne sais pas, d'être, ça ne valait pas non plus, des heures de travaux d'intérêt général, par exemple. Mais il n'y a pas eu de... Parce que comment il se refait maintenant? Il va porter ça à vie? À l'époque où il y a un type dont le nom commence par un Z, qui a été condamné 2 fois pour apologie de la haine raciale, j'ai plus les termes exacts, et qui risque d'ailleurs ces jours-ci une 3e condamnation. Et lui, il est tranquillement à l'antenne tous les soirs parce qu'il faut que les chaînes infos qui se disputent gagnent un point, enfin 0,1 derrière la virgule, c'est quoi? Donc oui, je pense que ça m'a coûté, j'ai même perdu, alors moi c'était pas des amis, parce que mes amis sont restés, mais vous savez, il y a plusieurs cercles dans la vie, et des connaissances qui ont exigé que je me désolidarise, hein, mais de quoi on parle là? Donc je les ai perdus, mais c'est pas grave, comme vous l'avez très bien souligné.
Pascal,
on continue ou
ça... Non, c'est fini,
ouais.
Je vous garde. Pascal Clark sur Beurre FM, mute. Voilà, c'est chez Flammarion. Il y a toutes les gens que vous rencontrez, tous les misogynes du métier. Je pense à Jérôme Bellet.
Ah.
Jérôme Bellet qui a créé France Info, qui a créé LCI d'ailleurs aussi.
Oui, même modèle.
Voilà, qui a été votre patron sur Europe 1. Hein, tous ces gens qui aiment beaucoup les femmes et qui les font travailler.
Et qui le prouvent.
Et qui le prouvent à l'antenne. Bah voilà, vous êtes comme à la radio, Pascal Clark.
Ah ouais. Oh, bah dites donc.
C'était un plaisir de vous voir.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci d'avoir été avec nous. Très bon dimanche sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.